Est-ce que je peux prendre la parole, Louisa? Je ne sais pas.
Oui, donc, mais Judith, il y a une question qui est pour toi. Je ne sais pas si tu veux intervenir pour
Oui.
répondre à Monsieur Allaire et ensuite nous passerons à la question sur la solidarité organique. Mais
Oui.
oui, tu peux y aller. Ou vous pouvez y aller.
Oui. Oh, tu peux me tutoyer.
Volontiers.
Moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que je ne crois pas qu'il y ait une résistance. Ici, il y a une résistance, c'est parce qu'il y a une méconnaissance. Moi, j'ai jamais senti qu'il y a une résistance, si je prends mon exemple personnel par rapport à moi, étant immigrante et venant dans un milieu rural, en Acadie, il y a eu beaucoup d'ouverture. Donc, je crois qu'on n'est juste pas habitué à voir, comme j'ai dit, différents visages de la francophonie. Et je me rappelle que les premières années où je suis arrivée ici, je suis allée dans les écoles pour raconter des histoires, pour raconter des contes. Et les enfants étaient étonnés de voir une personne de couleur parler en français et puis leur montrer qu'il existe une francophonie dans l'océan Indien, loin d'eux, et que cette personne était intéressée à venir les rencontrer dans leur milieu. Et vraiment, je pense que c'est à ce niveau-là, il manquerait, c'est la découverte d'autres mondes, la découverte d'autres identités. Et je pense qu'il faut le montrer de manière positive et avoir un langage positif par rapport à ça pour permettre l'ouverture parce que l'immigration, c'est une clé pour la vitalité linguistique. Et puis, comme j'ai dit, il ne faut pas oublier qu'on est dans des milieux où la population est vieillissante et l'immigration semble être une solution. Merci.
Merci beaucoup. Donc, Judith, il y avait quelques échanges dans le chat et quelqu'un demandait si vous pourriez développer la notion de solidarité organique, qui est une notion clé dans les travaux d'Émile Durkheim. Dans ce cas, peut-être, comment est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans les communautés francophones?
Oui, effectivement. Donc, ça vient d'Émile Durkheim qui met en opposition la solidarité organique de la solidarité mécanique. Donc, la solidarité mécanique, c'est vraiment, si je vous donne un exemple, si on a des regroupements autour des cultes, on a cette sensibilité-là. Donc, on se regroupe de manière mécanique selon des valeurs religieuses. Et tandis que la solidarité organique, ça dépasse ce côté-là. C'est vraiment aller vers l'autre, partager des valeurs qui sont beaucoup plus humaines, qui sortent de là d'institutions. Et je crois que, d'après toujours là de mon expérience, la population dans laquelle je suis est très ouverte à ça. Il y a déjà une solidarité, la solidarité des Acadiens qui existe. Quand je suis venue ici, j'ai pu expérimenter cette solidarité de l'entraide. Et je pense que c'est juste, il faut plus s'ouvrir les uns aux autres, s'ouvrir aux différentes cultures. On ne peut pas s'ouvrir que dans un sens. Il faut vraiment que ça aille dans les deux sens. Et je crois que c'est Kimberly qui parlait de vulnérabilité. Et je crois que ce principe ici est très important. On n'a plus l'habitude et où on ne veut plus se montrer vulnérable. C'est un des principes qu'on devrait remettre en contexte parce que, qu'on le veuille ou non, en tant qu'être humain, on a besoin de l'aide, on a besoin de l'entraide, pas seulement dans la cohésion sociale, mais parce que c'est un des principes humains. On a besoin de vivre avec l'autre. Donc, c'est ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question, donc cette solidarité organique. Merci.
Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir ou je regarde un peu le temps parce que nous aimerions avoir assez de temps pour passer dans les petits groupes de discussion. Donc, dans le chat, il y avait également une question qui a été discutée par l'intermédiaire de la conversation dans le chat au sujet de l'intégration des immigrants. Est-ce, ça ne se fait évidemment pas uniquement dans la communauté francophone, il y a aussi la communauté anglophone, notamment pour tout ce qui est du côté de l'emploi, l'intégration économique et l'utilisation de diverses institutions. Je pense que Suzanne y avait répondu. Est-ce que Suzanne, voudrais-tu ajouter autre chose?
Non, mais juste que c'est un point important qu'évidemment, plusieurs des gens qui ont participé à nos études parlaient de vraiment la nécessité d'apprendre l'anglais pour les raisons que tu mentionnes. Et donc, et j'ai déjà parlé un peu de l'importance de sensibiliser vraiment les organismes anglophones de la réalité de les communautés francophones en situation minoritaire, de mieux collaborer ensemble et de s'entraider aussi, de pas compétiter pour des clients, mais de vraiment voir ce qui est mieux pour le bien-être des membres de la communauté. Et ce qu'on a trouvé dans une étude récente, c'était que la communauté francophone jouait vraiment plusieurs rôles différents. Donc, c'était vraiment situé un peu entre le rôle que jouent les communautés ethnoculturelles, où que les gens peut-être se partagent une culture ou différentes traditions. Donc ici, ça devenait un endroit plus multiculturel où que les gens partageaient une langue, mais qu'il y avait plusieurs d'autres formes de diversité, mais que cette langue partagée donnait au moins un peu un sens de sécurité et que donc la communauté était un peu comme un tremplin envers la société canadienne ou la communauté plus large. Donc on connaissait quand même d'autres gens de la communauté en participant au sein de la communauté francophone et qu'une fois qu'on connaît un peu mieux la communauté, on peut ressortir au-delà de notre bulle de confort pour aller rencontrer d'autres gens aussi. Donc, c'est un rôle assez dynamique que jouait cette communauté francophone, non seulement en lien avec la communauté plus large qui parle l'anglais, mais aussi les communautés ethnoculturelles qui existent parmi cette CFSM.
Nous avions pensé poursuivre la conversation en plus petits groupes. Ce que nous vous proposons pour peut-être une vingtaine de minutes, de sorte à ce que nous puissions échanger, nous avons pensé à trois groupes qui correspondent en fait aux questions. Et si je comprends bien les instructions qui nous ont été données, vous pouvez choisir le groupe dans lequel vous voulez vous diriger. Le premier est autour des défis et enjeux de la cohésion sociale. Le deuxième se penchera sur, ça a changé, je vois plus le nom des groupes, les modèles, quel modèle de cohésion sociale? Et enfin, le troisième groupe au sujet des différences historiques et géographiques, donc des modèles différenciés et adaptés. Donc, pour finir, il y avait deux thématiques très populaires. L'une ne l'était pas. Alors, il y avait deux groupes, en fait. Est-ce que ceux qui étaient dans le premier groupe qui a parlé des défis et des enjeux voudraient rapporter les idées que vous avez approfondies?
Je peux le faire. J'ai pris des notes. C'était très intéressant parce qu'il y a, y a eu plein de nouveaux défis et enjeux qui ont été mentionnés. Malheureusement, j'ai oublié d'enregistrer la séance. Donc, j'ai pris des notes et Agathe aussi. On a beaucoup parlé de la question de l'inclusion. Et des défis liés à l'inclusion. Un des défis qui a été mentionné, c'est la question de la langue et de l'insécurité linguistique que vivent certains immigrants, même s'ils ont le français comme langue seconde ou maternelle. Il y a souvent un accent qui fait en sorte que leur français n'est pas considéré de la même chose. On a mentionné aussi, Judith mentionnait qu'elle a eu aussi le cas d'une immigrante française qui était dans le programme des maîtres en Nouvelle-Écosse et quand elle allait dans les écoles, elle se sentait vraiment pas à l'aise parce que sa variété de français était différente de la variété locale et les élèves ne la comprenaient pas. Donc, il peut aussi y avoir un renversement de la hiérarchie des accents, si je peux dire ça comme ça, qu'on a habituellement. Donc, cette question-là est revenue beaucoup et le rapport à l'anglais aussi, parce que on a un accent en anglais également. Donc, l'anglais est très présent dans plusieurs régions et souvent les gens vivent en situation d'exogamie. Donc, ça, c'est une des choses qui a été mentionnée. On a aussi mentionné que il faut se demander si les immigrants veulent être inclus. Est-ce qu'ils veulent vraiment s'intégrer? Comment est-ce qu'on peut mettre sur place une communauté qui accueille autant les francophones qui sont ici depuis longtemps que ceux qui sont arrivés plus récemment et qui n'est pas de hiérarchie non plus à l'intérieur des organismes francophones. Donc, que tout le monde soit inclus et admis sur un pied d'égalité. Les gens pourront compléter là, si j'ai oublié quelque chose. Donc, la volonté de s'intégrer dans la communauté d'accueil. On a aussi parlé du fait que l'incomplétude institutionnelle, donc le fait qu'il n'y a pas dans plusieurs régions francophones, il n'y a pas d'institution postsecondaire en français, ça fait en sorte que ça fragilise aussi la participation des immigrants à la vie en français parce que ils vont, après les écoles primaires ou secondaires, ils vont passer à l'université ou au collège en anglais afin de ne pas quitter leur famille. Donc, dans leur région, il y a peut-être pas d'offres de programmes et de cours en langue française. Et on n'a pas vraiment abordé plus longuement ça, mais on pourrait se demander aussi si c'est une des raisons pour lesquelles dans certaines institutions francophones qui sont éloignées des lieux d'immigration, si je peux dire ça, il y a peut-être moins de gens issus de l'immigration qui viennent étudier. Et donc, c'est un des enjeux de celui de l'incomplétude institutionnelle qui touche aussi à l'immigration. On a parlé de la question de l'importance de la médiation culturelle. On est revenu sur cet enjeu-là, qui est un enjeu important pour qu'il y ait une bonne compréhension les uns des autres et favoriser les échanges entre tous les francophones. Enfin, Kimberly posait une question qui me semble centrale, c'est qu'est-ce que ça veut dire être intégré? Est-ce que participer à des activités en français, même si le français n'est pas notre langue maternelle, mais qu'on envoie nos enfants à l'école française, on participe à la vie francophone, est-ce qu'on est intégré à la communauté francophone? Personnellement, je dirais que oui, mais... qu'est-ce que ça veut dire être intégré? Dans mes cours, je pose souvent la question à mes étudiants, est-ce qu'il faut que les gens veulent faire partie d'une communauté pour en faire partie? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui arrive en Ontario, qui parle français, qui s'installe en Ontario, ben moi je leur dis, vous êtes franco-ontarien, puis là ils me répondent, ben non, moi je suis sénégalais. Ben, vous vivez en Ontario, vous parlez français, donc vous êtes franco-ontarien. Et donc, est-ce que être intégré, ça veut aussi dire vouloir être intégré? Et quelle initiative d'inclusion on peut mettre sur place pour que le sentiment d'appartenance soit là? Parce qu'au-delà de la participation, il peut y avoir participation dans les activités, mais pas nécessairement un sentiment d'appartenance. Et Ibrahima soulignait que les identités ne sont pas mutuellement exclusives. c'est un autre de mes dadas, je dis toujours ça à mes étudiants, tu peux être Sénégalais, Franco-Manitobain, Canadien, ça ne s'exclut pas un l'autre, on peut être tout ça en même temps. Donc, les identités nationales ou linguistiques ne sont pas mutuellement exclusives. On peut être un francophone, mais on peut aussi parler anglais et parler d'autres langues. Mais en même temps, il y a une question là aussi de sentiment d'appartenance et de volonté d'être, de faire partie d'une communauté. Et là, on parle d'une communauté linguistique, mais qui est associée aussi à des valeurs, à des cultures, à des pratiques. Et donc, un des points importants, c'est aussi de combattre l'isolement. L'isolement des gens qui n'arrivent pas à se sentir partie prenante de ces communautés-là. Et c'est un défi majeur que de trouver des moyens de les faire sentir chez eux dans les organismes et la société asiatique. Donc, c'est ce que j'ai noté. Si j'ai oublié des choses, les gens qui étaient à la séance pourront ajouter.
Et je pense que Lucie t'a bien résumé, en tout cas pour la partie où j'étais présent, c'était très bien résumé.
Merci, je sais que l'après-midi se fait peut-être longue. Est-ce qu'on peut, Suzanne, est-ce que c'est toi qui partages les points centraux ou quelqu'un d'autre qui était dans le troisième groupe parce qu'il n'y avait personne dans le deuxième groupe. Donc, on passe directement au troisième groupe.
Moi, ça me ferait plaisir, mais aussi les autres peuvent ajouter à la fin parce que nous, on a enregistré, donc j'ai moins pris de notes. Donc, je vais faire ça assez vite par mémoire. Mais on a retombé sur la question de M. Gratien Allaire qui parlait un peu des communautés résistantes et on parlait de les expériences que nous, on a dans soit nos travaux, nos expériences personnelles des régions plus rurales ou des plus petites villes où que peut-être les communautés sont moins ouvertes parce qu'ils ont moins vécu cette immigration et c'est quand même un phénomène assez nouveau et qu'il y a cette méfiance ou cette méconnaissance des nouvelles personnes qui se joindront à la communauté à cause des menaces qu'ont subies ces communautés-là de façon historique. Et donc, on a parlé un peu de quelles seraient peut-être des stratégies pour commencer à tisser des liens entre des gens dans des plus petites villes. Donc, on a parlé un peu des célébrations culturelles et donc, pas nécessairement en lien avec quelque chose de très traditionnel comme la fête Saint-Jean, qui peut-être n'attire pas tout le monde aussi. Il y a la journée Bastille, je crois, donc où tous les Français se viennent ensemble, mais c'est pas vraiment multiculturel. Mais peut-être avoir comme un festival pour les enfants. Et donc, tous ceux qui ont des enfants se retrouvent ensemble, peu importe la culture ou quoi. Mais c'est pas nécessairement comme... C'est pas une solution, mais c'est peut-être une activité qui peut au moins commencer à tisser, à nous aider à tisser des liens au sein de la communauté. Et le fait, on a parlé aussi du défi que le travail n'est jamais fini parce que les communautés sont dynamiques et ces processus sont des processus qui sont en cours à tout le temps. Donc, juste parce que, comme on dit, on a intégré un groupe d'immigrants l'année dernière, ça n'aide pas le groupe qui arrive cette année. Et donc, le travail recommence avec chaque nouveau membre de la communauté qui s'installe. On doit faire certain qu'on met la même énergie à chaque fois. Et donc, le travail n'est pas fini. On doit prendre ce qu'on a appris de les autres expériences et les amener, mais aussi être dynamique parce qu'il y a beaucoup de diversité au sein de la communauté immigrante aussi. Donc, ça dépend d'où viennent les gens. Là, on va avoir plus de réfugiés de l'Afghanistan qui vont venir se joindre aux communautés. On veut faire certain aussi que les communautés francophones jouent leur rôle dans l'établissement de ces populations réfugiées aussi. Et donc, c'est difficile parce que c'est très, très, très dynamique. Donc, est-ce que je ne sais pas si Geneviève, Chantal ou Marc veulent ajouter quelque chose? Mais c'était une conversation assez intéressante selon nos vécus.
J'ajouterais peut-être une chose que j'ai réalisée aussi en participant à cette discussion-là, c'est que je me parlais des petites communautés qui étaient basées traditionnellement sur l'homogénéité. Et moi, je me rappelle, j'habitais dans un petit village à Bourgette, à 50 km d'Ottawa, où même mon nom était étrange, parce que tout le monde avait un patronyme canadien-français. Et donc, la communauté se réunissait traditionnellement autour d'une culture commune, de valeurs communes, qui a tué des valeurs religieuses d'ailleurs, etc. Et donc aujourd'hui, on est invité en fait à reconstruire une communauté, au contraire, autour, basée sur la diversité, sur la richesse de la diversité. Donc il y a vraiment c'est presque une révolution copernicienne à passer d'une communauté basée sur l'homogénéité à une société basée sur la diversité. Et c'est certainement donc un gros travail à faire pour certaines personnes, surtout les personnes qui viennent de générations plus anciennes, plus âgées. Et par contre, je crois beaucoup, comme Ibrahima, que c'est aussi une question de temps, parce que la génération d'après, les générations qui naissent, qui apparaissent aujourd'hui, elles n'ont plus cette mémoire de la communauté basée, communauté homogène, en fait, ça n'existe plus. Ça n'y sera plus bientôt, même dans les petits villages dont on parle.
Merci, Marc. C'est bien dit.
Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un voudrait rajouter un commentaire, des pensées, des questions? Oui, Judith, bien sûr. Judith, est-ce que...
Oh, j'essayais de mettre mon microphone. J'arrivais pas avec mon curseur qui allait dans tous les sens. J'ai dit, oh mon Dieu.
Oui, ça arrive encore toujours.
Tout le monde me regarde et moi, je suis en train de m'amuser avec mon curseur. Oui, donc, je voulais parler des problématiques différentes, comme ici, par exemple, à l'université, on a beaucoup d'étudiants internationaux, mais ce sont des étudiants, donc ça ne fait pas partie de la clientèle nécessairement des immigrants. Et je veux dire, d'après les études, et puis il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur l'intégration des étudiants internationaux, que ce soit dans les maritimes et ailleurs, il y a des étudiants qui aimeraient rester dans le milieu, mais les règlements ne sont pas faits nécessairement pour ça, pour qu'ils restent. Et puis aussi, il n'y a pas nécessairement, en tout cas en milieu rural, il n'y a pas nécessairement d'emploi. Donc ça, c'est vraiment des freins. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une main d'œuvre compétente, conforme, et qui ne peut pas rester sur place parce qu'il n'y a pas d'emploi et parce qu'ils ont un statut particulier. Et de même, les travailleurs temporaires, donc qui viennent de manière régulière, parce qu'ici, on a des industries de la pêche qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, mais ce ne sont pas des personnes qui sont considérées comme immigrantes. Et là aussi, on perd un petit peu cette main-d'œuvre-là. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez, parce que ça ne fait pas partie des immigrants et des réfugiés aussi, partir sur dans ce contexte des étudiants et travailleurs temporaires. Voilà.
C'est une des questions qui pourrait se poser dans mon sens. En tout cas, les étudiants internationaux qui ont l'option de devenir des résidents permanents et en fait, c'est un bassin énorme qui, au plan institutionnel surtout, tel que Lucie mentionnait dans votre groupe, vous avez parlé en géographie, on parle d'un mismatch, où en fait les immigrants et les personnes qui ont besoin des immigrants ne sont pas forcément au même endroit. Donc je pense que oui. Et puis pour les travailleurs temporaires, peut-être qu'on n'a encore pas fait le lien avec les communautés francophones. C'est peut-être c'est une grande problématique à travers tout le Canada, mais c'est peut-être une thématique soit volontairement que les communautés francophones n'ont pas adressé parce qu'elles pensent ou ça ne les touche pas directement, mais peut-être que oui, et surtout justement sur la côte atlantique où les pêches dépendent de ces travailleurs, peut-être ce serait une question. Donc je ne vais pas prendre plus de temps parce qu'Ibrahima voulait intervenir, mais je ne savais pas si c'était au sujet de ça ou une autre intervention, mais vous pouvez y aller.
Oui, c'est à propos des... Merci, Luisa. C'est à propos des étudiants. Nous, ici au Manitoba, je me souviens, dans les années 2012-2013, comme on avait déjà ouvert notre université en Afrique, déjà, on avait des gens qui étaient au gouvernement qui étaient très, très, très stratèges et qui avaient réussi à convaincre le gouvernement manitobain de pouvoir justement faciliter l'immigration à partir justement de ces étudiants-là, des étudiants internationaux, comme on les appelait. Et ça, ça a beaucoup de sens dans la mesure où vous avez des gens qui sont venus par leurs propres moyens, qui ont payé des études et qui sont aussi qualifiés que des Canadiens. Donc, on ne peut pas leur dire votre diplôme, on ne le reconnaît pas. Alors, donc, ça faisait que c'était beaucoup plus facile de cette façon-là. On peut toujours arguer que c'est de l'exode des cerveaux, mais ça, c'est notre problème. Mais d'avoir des gens qui sont déjà, qui ont survécu 3 hivers, 4 hivers, 5 hivers. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le gouvernement avait fait un très bon calcul pour leur offrir la possibilité, parce que rien n'empêche un immigrant reçu ou intégré de rentrer chez lui, mais au moins de leur donner cette chance-là en leur permettant de faire des stages après leurs études. Et surtout aujourd'hui, en ce temps où on parle beaucoup de la pénurie de main-d'œuvre, et comme on dit souvent, nécessité fait loi. Vous avez pu voir que, par exemple, au Québec, ils se sont rendu compte que les préposés aux bénéficiaires, vous avez vu le nombre de gens immigrants qui font partie de ce élément-là. Les infirmières, subitement, moi, j'ai vu, on dit, tiens, mais les infirmières marocaines, mais oui, ils ont la même formation que les Français, on va ouvrir. Alors, donc, ça dépend aussi du contexte dans lequel on est, qui va obliger les gouvernements. Mais on ne devrait pas attendre ça pour pouvoir... Il y a des compétences qui sont là, mais travailler ensemble, c'est des ressources extraordinaires pour le bien-être de tout le monde. Et chacun va, ce qui permettra aux immigrants de pouvoir communiquer, de pouvoir plutôt contribuer à leur milieu de vie, quoi. Mais il faut leur donner cette possibilité-là. Sinon, quand il n'y aura personne pour cueillir les fraises et nos framboises, on va le sentir.
Ibrahima, j'aime bien ce que vous dites parce que j'ai un exemple. Lorsque j'enseignais encore au collège, j'avais une étudiante qui était un âge mature de, on dit, une cinquantaine d'années, qui venait de l'Allemagne et qui était infirmière pendant toute sa vie. Et un coup ici, il disait, OK, il faut apprendre plus l'anglais, il faut apprendre plus le français. Alors, pour elle, c'était une question de langue. Et ce qu'elle ne comprenait pas, c'est entre-temps, parce que ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Entre-temps, elle ne pouvait pas faire de stage, d'aller voir comment ça fonctionne les hôpitaux, puis d'apprendre comment sur le terrain. Puis c'est ça qui manque, je ne sais pas au national, mais c'est ça qui manque au Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucune flexibilité pour... On ne peut pas s'attendre que les gens vont venir ici, puis après ça, on va leur dire, ça prend du temps, il faut maîtriser votre français avant d'être capable de travailler, puis entre-temps, les gens ne font rien. Parce que no money, no fun. Mm-hmm. Puis peut-être que c'est à nous de commencer à mettre quelque chose sur pied, puis le donner au gouvernement, puis dire, regardez, ça ne fonctionne pas, parce que les gens, on n'a pas besoin d'aller à destination Canada pour aller chercher des immigrants pour venir ici, puis après ça, ils restent à la maison. De ce côté-là, c'est un autre terme, puis je ne vais pas vous embêter pour ça, mais c'est nous sommes les gens, nous ne sommes pas les gens à Ottawa, mais nous sommes les gens qui sont dans le métier puis qui voient des choses comme ça se produire. Ça fait des années, puis peut-être que c'est temps qu'on mette quelque chose comme ça sur pied, puis qu'on leur donne sur une tablette puis dit « OK, là, il faut faire des changements parce que ça ne fonctionne pas la manière que c'est maintenant.
»
Merci. Je pense que nous sommes proches du moment de clore les 2 heures et quelques qui sont déjà passées.
Kimberly a levé la main, Louisa.
Oh, je m'excuse, j'ai manqué. Il me semblait mais,
que oui, Kimberly... Oui, c'est parce que c'est un peu difficile à cause du logo là, de la FCA.
Ah, OK. Je ne le voyais pas. Je m'excuse. Donc, merci parce qu'en fait, je me demandais si Kimberly voulait dire le dernier mot.
Ah bon, voilà, je suis chanceuse, je vais avoir les derniers mots. Je vais être très, très brève. Je voulais juste mentionner le fait que toute cette discussion par rapport à la cohésion communautaire ne peut pas se faire en silo. Donc, on a parlé plutôt d'intersectionnalité, d'identité des membres des communautés francophones, des personnes issues d'immigration, issues de la diversité. Donc, pendant qu'on est en train d'avoir cette discussion sur la cohésion communautaire dans les communautés francophones, on doit également adresser toute la question de rapprochement avec les communautés autochtones. On doit également discuter de toute la question de la communauté LGBTQ+, l'islamophobie fait encore des ravages dans notre pays, malheureusement. Montée de racisme anti-asiatique fait des ravages dans notre pays. Donc, je pense que toutes ces différentes questions ne peuvent pas se traiter en silo chacun de son côté et qu'il faudra les inclure dans cette discussion également. Merci.
Merci beaucoup pour ce point. Donc là, Lucie, on s'approche de la vraie clôture. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire parce que tout le monde a dit tellement de choses intéressantes et j'ai retenu un nombre de termes, que ce soit la solidarité organique, la question de la vulnérabilité, le besoin d'ouverture, la médiation culturelle, le rôle de l'école, la construction de ponts entre les institutions comme l'école et la communauté, mais aussi parmi les divers membres, le renouveau constant, le fait qu'on doit renouveler les efforts, mais aussi comment lutter contre le TLM, le toujours les mêmes, de sorte à faire sortir le monde. Aussi les questions de co-apprentissage, la co-construction en fait de ce projet de société autour de la cohésion sociale, et le fait qu'on doit tous y participer. Et puis surtout ce qui m'a beaucoup touchée, c'était quand on a mentionné les termes résistance et résilience, le fait que tous les membres des communautés francophones, en fait, ont fait l'expérience des luttes et que c'est autour de cela, notamment en se connaissant mieux, qu'on peut vraiment, en fait, construire ces ponts. Le besoin de reconnaître que les immigrants, mais aussi ceux qui sont ici, sont tous passés par des énormes défis. Et puis pour moi, ça c'est ce qui me touche le plus parce que je me suis toujours demandé, vu que nous avons quand même la langue malgré les différences, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas? Donc là, il y aurait peut-être le projet et la question avec laquelle je reste au suite de notre après-midi de conversation, c'est qu'au fait, il semble qu'au micro, en fait, l'ouverture est là, l'inclusion est là et plusieurs d'entre vous ont dit avoir eu des expériences positives en général. Mais comment est-ce qu'on peut faire, et je ne sais vraiment pas quel est le terme en français, scaling up. C'est qu'au micro, ça fonctionne. On invite le voisin, on a tous eu une expérience positive, mais comment est-ce qu'on peut transférer cette ouverture à un niveau plus élevé au plan de la communauté, de la province, de la francophonie canadienne. C'est ce scaling up, en fait, des côtés positifs. Donc, on va rester sur ça et je vous rappelle que c'est la première de 3 journées. Et aujourd'hui, nous avons déjà soulevé la question de la complétude institutionnelle qui est en fait la thématique de notre prochain atelier le 4 novembre. Et nous espérons vous y revoir nombreux. Sur ce, Lucie qui a le vrai mot de la fin.
J'aimerais simplement remercier nos panélistes. Merci beaucoup de votre générosité d'avoir été là. Merci à tous les participants qui ont vraiment contribué à la réflexion et qui nous permettent d'évoluer dans notre dans notre vivre ensemble, je dirais ça, comme ça, parce que c'est essentiel que ce vivre ensemble soit le meilleur possible et qu'il soit inclusif, tolérant, accueillant et amical. Donc, merci d'avoir été là et on espère vous revoir le jeudi 4 novembre. Vous pouvez vous inscrire en ligne pour notre prochaine rencontre qui, comme le disait Louisa, portera sur l'incomplétude institutionnelle, le pouvoir et la représentation. Merci énormément à vous tous.